12h30, 13h, le journal de la mi-journée sur Europe 1. C'est avec vous Fabienne Lemoelle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Ça doit être quelque chose qu'on ne doit pas vivre, c'est pas possible. Pas à 15 ans, ça ne doit pas arriver, ça ne doit plus arriver, plus jamais.
Beaucoup d'émotions avec une marche blanche ce matin au Lila en hommage à Kéoui, ce lycéen de 15 ans mort de plusieurs coups de couteau. Un cortège avec une banderole, tous unis contre la violence pour interpeller le gouvernement. Jour de vote chez les Républicains, ils doivent trouver un successeur à Laurent Wauquiez à la tête du parti.
Est-ce que nous aurons d'autres chances dans les années qui viennent de reconstruire un parti qui va mal ?
Nous irons en Écosse où l'homme victime d'une méprise et innocenté par les tests ADN dans l'affaire Dupont de Ligonnès est ressorti libre hier du commissariat.
C'est une très grosse erreur. Comment ont-ils pu faire une si grosse erreur ?
How could they make such a mistake?
Nous serons au Japon après le passage du typhon Agibis qui a fait au moins 23 morts selon la chaîne japonaise NHK. Les négociations qui s'intensifient à Bruxelles pour sortir de l'impasse du Brexit. On en parlera avec mon invité Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes. Enfin, la météo et après la chaleur estivale dans le sud-ouest, attention aux orages.
Europe 1.
Beaucoup d'émotions ce matin dans les rues du Pré Saint-Gervais et au Lila en Seine-Saint-Denis. Ils étaient plusieurs centaines, élèves, familles, enseignants ou encore élus pour une marche blanche. En hommage à Kéoui, ce lycéen de 15 ans tué de plusieurs coups de couteau le 4 octobre dernier. Jean-Gabriel Bourgeois, vous avez suivi le cortège pour Europe 1 et ils étaient nombreux aussi à être venus pour interpeller le gouvernement.
Oui, et au moment du départ de cette marche silencieuse, les sanglots de la maman de Kéoui lancent le cortège. Derrière une banderole avec le portrait de l'adolescent, cette phrase « Unie contre la violence, justice pour Kéoui ». Une rose blanche à la main, Nouella et Aya, qui ont grandi avec lui, tenaient à être présentes ce matin.
On soutient la famille, on montre qu'on est là pour eux et on montre qu'on aimait vraiment Kéoui.
On fait un mouvement, c'est pas pour qu'ensuite on le refasse, on veut pas du tout que ça se reproduise, on veut pas qu'il y ait encore un mort, on veut pas qu'il y ait encore des blessés. Donc ce mouvement, ça va montrer de un qu'on est ensemble pour que ça se reproduise pas et qu'il faut pas qu'il y ait de représailles.
Dans le cortège des camarades aux yeux rougis, le visage de leur copain sur le t-shirt, il y a aussi des mamans en colère comme Nawel. Son fils jouait encore au foot avec Kéoui la veille du drame.
Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est des familles endeuillées, c'est des amis tristes. Et par ricochet, c'est des mamans en colère également. Ça doit être une douleur qu'on ne doit même pas ressentir. Ça doit être quelque chose qu'on ne doit pas vivre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pas à 15 ans. Ça ne doit pas arriver. Ça ne doit plus arriver. Plus jamais.
Les participants de cette marche viennent d'arriver devant le stade où l'adolescent s'est fait poignarder la semaine dernière. Une minute de silence vient d'être observée dans le recueillement et en ce moment, la famille de Kéoui, très émue, prend la parole pour remercier les centaines de personnes venues les soutenir.
Jean-Gabriel Bourgeois au Lila pour Europe 1. On veut la vérité, voilà ce que l'on pouvait entendre hier dans les rues de Rouen. On nous met la manifestation d'un millier d'habitants, toujours aussi défiants envers les pouvoirs publics deux semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol. Et ce matin, la ministre de la Santé leur a répondu sur Europe 1.
Le fait qu'on mette tout sur la table, c'est-à-dire absolument tout ce qu'on sait, et dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, eh bien, en réalité, ça, je trouve, calmé les esprits. Mais il y a encore des résultats en attente sur la dioxine dans le lait ou dans les fourrages. Et tant que nous n'avons pas la totalité des prélèvements et des recherches de polluants, eh bien, on ne peut pas être totalement rassurant parce que ça serait mentir aux gens. Mais aujourd'hui, je peux dire que sur la très grande majorité des polluants recherchés sont en dessous des seuils de toxicité et donc, au fur et à mesure, on peut lever les doutes. Aujourd'hui, c'est quoi les experts pour une agence sanitaire ? Ce sont des médecins, ce sont des biologistes, ce sont des spécialistes de l'agriculture, des vétérinaires. Et donc, si la population ne croit plus ses médecins, si la population ne croit plus ses vétérinaires, qui croit ?
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui était l'invitée ce matin du grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos. À l'étranger, l'offensive turque se poursuit dans le nord de la Syrie. Les Nations Unies redoutent que cela se traduise par d'importants déplacements de population. Déjà, 130 000 personnes ont fui les zones de combat et ce chiffre pourrait atteindre 400 000 selon l'ONU. Les Kurdes qui fuient les bombardements, mais côté turc, les habitants plient aussi bagages. Ils préfèrent évacuer leur maison pour ceux qui se trouvent à la frontière, où l'on rejoint notre envoyé spécial, Jean-Sébastien Soldaini.
Le mur de la maison de Bedir fait face à la frontière. Les barbelés sont à quelques mètres. De l'autre côté, les forces kurdes se défendent et tirent en direction de la ville. Il y a deux jours, ce père de famille s'est retrouvé avec un obus dans sa cuisine.
Il y a quelques jours, tout était très calme. Et maintenant, on entend des explosions. On était conscient que le silence qui régnait ici avant l'attaque annonçait un danger. Alors c'est vrai, j'ai perdu une partie de ma maison. Je peux vivre sans maison, mais pas sans mon drapeau et mon pays.
Des haut-parleurs diffusent dans les rues la rhétorique du président Erdogan. Les combattants kurdes sont considérés comme terroristes. Hamza ne rentre pas dans ce débat. Il quitte la ville avec les 11 membres de sa famille.
Les tirs sont juste à côté de nous. Nos voisins ont été tués. Pour être honnête, nous ne savons pas où aller. Mais on part, vite. On prend juste ce dont on a besoin. On laisse une grande partie de nos affaires à la maison.
Autour de lui, les rues se vident alors qu'en face, le Kurdistan syrien replonge dans les combats. Akşa Kale, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Et par ailleurs, selon les autorités kurdes, plus de 800 proches membres du groupe djihadiste État islamique ont fui un camp de déplacés dans le nord de la Syrie, situé à proximité des combats.
Midi 36, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoelle.
Les Républicains votent depuis hier soir 20h pour trouver un successeur à Laurent Wauquiez. Ils ont le choix entre trois candidats, Christian Jacob, Julien Aubert et Guillaume Larrivé. Toute la question est de savoir si les militants jouent le jeu. Claudia Bertram, vous vous trouvez au siège du parti à Paris. Où en est-on de la participation ?
Eh bien, à 11h, la haute autorité du parti enregistre plus de 34 000 votants, soit un taux de participation de 26%, un chiffre inespéré d'après un cadre du parti. Il faut dire qu'en interne, on tablait ces derniers jours sur 30 à 50 000 votants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'un vote électronique, donc les militants peuvent voter de chez eux, depuis un ordinateur ou même un smartphone. Mais des permanences sont ouvertes pour aider les militants à voter, comme ici. J'ai pu parler avec certains d'entre eux. Et pour Rose, l'enjeu du scrutin est très important pour l'avenir du parti.
Est-ce que nous aurons d'autres chances dans les années qui viennent? Je ne suis pas sûre de reconstruire un parti qui va mal, qui l'a prouvé du reste. Hein. Et puis les électeurs sont partis, la plupart, il faut qu'ils reviennent.
En effet, 100 000 adhérents ont quitté le parti en 2 ans, mais ce militant se veut confiant.
Il faut y croire, on a encore une base de 130 000 adhérents, militants, des millions de sympathisants. Et puis les municipales vont nous permettre de remonter sur notre cheval.
Prochain point sur la participation à 17h. Les militants ont jusqu'à 20h ce soir pour voter.
Jusqu'à 20h pour voter, nous dit Claudia Bertram, avec des résultats attendus très vite dans la demi-heure qui suivra. Et dans un instant, nous partons en Écosse où l'homme victime d'une méprise arrêté dans l'affaire du pont de Ligonnès et innocenté par des tests ADN a été relâché hier après-midi.
Europe 1. Europe 1 midi 39, le journal de la mi-journée se poursuit jusqu'à 13h avec vous Fabienne Lemoelle.
Et le mystère de l'affaire du pont de Ligonnès reste donc entier. L'homme qui avait été arrêté par méprise vendredi a été innocenté par des tests ADN, comme nous vous l'annoncions dans ce journal de la mi-journée hier. Il est donc bien évidemment ressorti libre du commissariat où il était entendu par les policiers écossais. On rejoint en Écosse notre envoyée spéciale Pauline Jacquot. Et pour l'instant Pauline, on ne sait pas si l'homme a quitté le pays.
Oui, ce matin, la maison semble avoir été désertée. Aucun bruit. Les deux voitures qui étaient garées hier devant le pavillon de Guy et sa femme Marie ne sont plus là. On savait qu'il cherchait un peu de tranquillité, un peu de sérénité après ces dernières 24 heures très agitées pour ce couple à la retraite installé depuis un peu plus d'un an dans cette petite ville du sud de l'Écosse. Un couple très discret. Le nom de Guy n'évoque pas grand-chose dans le voisinage. En revanche, son histoire a déjà fait le tour de la ville. Beaucoup évoquent cette histoire incroyable. Cet homme que la police a confondu avec un autre et pas n'importe qui, le fugitif le plus recherché de France. Il habite juste à côté de chez moi, lance Tommy, en pleine discussion avec des amis.
Oui, mais juste de l'apprendre à la télévision.
Mais il est français, c'est ça? Cet homme innocent, il est français?
Oui, c'est celui qui s'est fait arrêter à l'aéroport. Il doit être vraiment sous le choc. Nous le sommes tous. C'est une très grosse erreur. Comment a-t-il pu faire une si grosse erreur?
How could they make such a mistake?
Et ce matin, encore à l'heure de la messe, ici, dans le quartier résidentiel où habitent Guy et sa femme, certains paroissiens me disaient éprouver de la compassion pour cet homme qui vivait jusqu'à présent une vie sans histoire. J'espère maintenant, lance un autre, qu'il va pouvoir rapidement se remettre de toutes ses émotions.
Pauline Jacquot, envoyée spéciale d'Europe 1 en Écosse. En Corse du Sud, un cargo s'est échoué cette nuit dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Le navire Rodanus transportait 7 tonnes de bobines d'acier. Il n'a pas viré à temps. Il est maintenant posé sur le fond. Le maire de Bonifacio assure que la situation est sous contrôle.
Jusqu'à maintenant, on ne constate pas de pollution. La crainte, c'est de savoir si l'opération pour remettre ce bateau à flot et pour qu'il puisse être évacué vont se faire dans de bonnes conditions. Hein. Qu'on n'ait pas, à ce moment-là, une pollution à l'hydrocarbure, une pollution quelconque dans les Bouches. Ça, c'est notre préoccupation du moment concernant cette évacuation de ce bateau. Ensuite, il y a dans ces bouches un trafic important, notamment en juillet-août, mais toute l'année, et je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille peut-être à la mise en place d'un rail, comme on peut l'avoir aujourd'hui dans la Manche, parce qu'on est inquiet. Ça fait deux fois, c'est un céréalier, c'est aujourd'hui un porte-conteneur avec des bobines métalliques, mais on craint toujours le chimiquier, on craint toujours le tanker. Et là, par contre, dans une mer fermée comme la Méditerranée, je crois que le mot drame est largement en dessous de la réalité.
Le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci, qui répondait à Marion Gauthier. Direction le Japon avec Agibis, qui s'est enfin éloigné du pays et qui est en train de perdre en puissance dans le Pacifique. Mais le passage de ce typhon va rester dans les mémoires. 23 morts selon un dernier bilan de la chaîne japonaise NHK. On retrouve sur place notre envoyé spécial Simon Rubin. C'est un spectacle de désolation que les Japonais découvrent depuis leur réveil.
Oui, et plus que les rafales de vent, hein, ce sont surtout les pluies records qui ont causé des dégâts ici. Glissements de terrain, rivières qui sortent de leur lit, barrages qui cèdent. Dans le centre du pays, hein, dans la région de Nagano, on enregistre les dommages les plus lourds. Des quartiers entiers ont disparu, submergés. Les habitants ont été secourus toute la journée par bateau, par hélicoptère. Et dans la grande banlieue de Tokyo, hein, on constate également des dégâts matériels importants. Au total, dans le pays, encore 100 000 foyers sont privés d'électricité. Alors heureusement aujourd'hui le temps est dégagé, ce qui facilite les opérations de secours. Les policiers, les pompiers de tout le pays ainsi que 27 000 militaires sont mobilisés. Opérations de secours, de nettoyage, réparation aussi des infrastructures, notamment des ponts, et puis des recherches qui continuent puisqu'à l'heure actuelle 16 personnes sont portées disparues.
Simon Rubin au Japon pour Europe 1, et on comprend en vous écoutant, Simon, pourquoi le match France-Angleterre pour la Coupe du Monde de rugby avait été annulé. Le journal des sports. Christophe Lamarre, bonjour Christophe.
Bonjour Fabienne.
L'équipe de France jouera donc sa qualification de demain soir face à la Turquie. On parle là bien sûr de football.
Évidemment, les Bleus poursuivent leur préparation à Enghien-les-Bains. L'équipe alignée demain soir devrait être la même qu'en Islande. À deux ou trois éléments près, l'incertitude plane notamment en attaque avec Olivier Giroud. Sera-t-il aligné ou non? Antoine Griezmann, lui, en sera et il n'a qu'un souhait, effacer la défaite du match aller.
C'est un match important par rapport à ce qui s'est passé là-bas où c'était pas nous. On aura envie de faire un gros match parce que c'est un match important pour la qualif directe. Voilà, on sera sûrement prêt pour ça. J'espère qu'il y a une grosse ambiance au Stade de France et on pourra prendre les trois points.
Antoine Griezmann au micro de Cyril de la Morinerie, France-Turquie, demain soir à 20h45 à Saint-Denis.
Et on espère que le Stade de France fera le plein des Bleus qui peuvent compter sur un supporter de choix, Luis Fernandez.
Il est l'invité exceptionnel d'Europe 1 ce soir à partir de 20h dans l'émission Face aux auditeurs. L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain qui soutient Didier Deschamps et l'équipe de France dont le jeu est souvent critiqué. Luis Fernandez.
Je suis un fan, supporter de l'équipe de France et de Didier Deschamps. Alors certes, c'est vrai, on peut éventuellement se poser des questions. Certes, on peut être déçu par moments. Mais depuis que Didier a repris cette équipe, elle nous a redonné de la joie. Elle nous a redonné du plaisir. Le plus important, c'est de gagner. C'est de vous donner de la joie, si vous apportez quelque chose. Et je pense que... Alors c'est vrai qu'on attend plus, on voudrait plus, on aimerait les voir jouer par moments comme des Brésiliens, on aimerait tellement voir du beau jeu, on aimerait tellement... Je reste supporter de cette équipe de France, elle a gagné, elle a pris les trois points. Maintenant, demain soir, il y aura ce match face à la Turquie. Ils vont terminer remarquablement bien le travail et cette équipe de France va se qualifier pour ce championnat d'Europe qui aura lieu cet été.
Luis Fernandez que vous retrouverez ce soir à 20h sur Europe 1 dans l'émission Face aux auditeurs avec Lionel Rosso. Et à propos de Didier Deschamps, son contrat avec l'équipe de France pourrait être prolongé jusqu'en 2022 selon nos confrères de l'équipe.
Et on revient à la Coupe du Monde de rugby au Japon. On connaît l'adversaire des Français en quart de finale.
Ce sera le Pays de Galles et le quart de finale aura lieu dimanche prochain. Les Gallois ont battu l'Uruguay 35 à 13 ce matin. Le dernier billet pour les quarts de finale va se jouer dans quelques minutes entre le Japon et l'Écosse.
Le reste de l'actualité sportive en bref.
On n'arrête plus Daniil Medvedev. Le Russe remporte le Masters 1000 de tennis de Shanghai. Il a battu l'Allemand Alexander Zverev. C'est le quatrième titre cette année pour Medvedev.
Merci beaucoup Christophe Lamarre. Il nous reste à voir le temps de ce dimanche.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcaDB. Plus d'infos sur arcadb.com. ArcaDB vous présente la météo.
Et clairement Valérie Darmon, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne.
C'est le moins que l'on puisse dire, Fabienne, avec de la chaleur estivale pour certains, comme dans le sud-ouest, la façade est et le sud-est, avec pour valeur cet après-midi 31 annoncé à Mont-de-Marsan par Météo France, 30 à Saint-Girons, à Auch, à Agen et à Tarbes, 29 degrés à Bordeaux et à Pau, 28 degrés à Bourges et Cahors, 27 à Périgueux et Châteauroux, et puis pluie et vent fort pour d'autres, comme en Normandie, en Bretagne, sur les Hauts-de-France depuis ce matin, et puis Charente, Poitou, Pays de la Loire, bassin parisien cet après-midi, avec des valeurs cette fois beaucoup plus faibles, avec 17 annoncés à Quimper et Cherbourg, 19 à Vannes, 20 degrés à Rennes, 21 à Caen, 23 à Langres, à Laval et à Verdun ainsi qu'à Lille et enfin tout de même 25 en région parisienne avant l'arrivée de la pluie en fin de journée. Alors cette semaine, la perturbation d'aujourd'hui va progresser dans l'intérieur des terres demain et notamment mardi, provoquant des pluies soutenues dans le nord et des orages parfois forts dans le sud-ouest, notamment du côté aussi des Alpes, du Jura et du sud-est pour mardi. Retour au calme annoncé pour mercredi et c'est mardi d'ailleurs que les températures chuteront aussi, notamment de 10 degrés dans l'Est. Retour dans les normales de saison à partir de mercredi.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, va-t-on mettre enfin un point final au feuilleton du Brexit ? Michel Barnier, le négociateur pour l'Union européenne, a eu le feu vert vendredi des 27 pour intensifier les négociations avec Londres avant le sommet européen de jeudi. Que faut-il en attendre ? Je pose la question dans un instant à mon invité Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes, enseignant à l'École des affaires publiques à Sciences Po.
Il est 12h51 et vous écoutez le journal de la mi-journée. La suite sur Europe 1 avec à présent votre invité Fabienne Lemoyle.
Et une question, va-t-on enfin mettre un point final au feuilleton du Brexit ? Michel Barnier, négociateur pour l'Union européenne, un week-end très chargé. Il a eu le feu vert vendredi des 27 pour intensifier les négociations avec Londres avant le sommet européen de jeudi et cette date fatidique du 31 octobre. Avec moi en studio, Patrick Martin-Genier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions européennes, enseignant à l'École des affaires publiques de Sciences Po. Déjà en mai dernier, ouais. Vous étiez avec moi à ce micro, je vous parlais du feuilleton sans fin du Brexit, Theresa May enchaînait les négociations avec Bruxelles, on a vu le résultat. Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre à un miracle avec, dans les heures qui viennent, une sortie négociée ?
Alors, le miracle, on peut toujours croire à la fumée blanche qui sortirait des arcanes de Bruxelles. Ça va être extrêmement difficile, mais c'est vrai qu'il y a eu une petite euphorie vendredi. Pourquoi ? Parce que vous savez que Boris Johnson a rencontré Leo Varadkar, le premier ministre irlandais, et il semble-t-il que cette réunion a été très positive. Le problème aujourd'hui de Boris Johnson, c'est qu'il veut absolument sortir le 31 octobre. La différence avec Theresa May, puisque vous posez la question, c'est qu'il serait sur le point d'avoir un accord avec ceux qui font sa majorité parlementaire, à savoir les unionistes nord-irlandais, le DUP d'Arlene Foster. Ils sont 10 députés, ils tiennent la majorité. Et si Arlene Foster était d'accord pour soutenir Boris Johnson, alors cela entraînerait l'accord d'une soixantaine de députés très eurosceptiques du Parti conservateur. Et c'est cela aujourd'hui. Et pourquoi un miracle ? Parce que on est en train de discuter sur l'Irlande et vous savez que les unionistes ne souhaitent absolument pas être séparés du Royaume-Uni.
Alors justement, vous nous parlez de l'Irlande, Patrick Martin-Genier. C'est ça le gros problème, le nœud du problème. Le risque, c'est quoi ? Et personne ne veut qu'on rétablisse effectivement une frontière dure entre l'Irlande du Nord, qui est une province britannique, on le rappelle, et la République d'Irlande, qui, elle, fait partie de l'Union européenne.
C'est exactement le nœud du problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est hors de question de remettre des frontières. Vous savez, il y a plus de 500 km de frontières, plus de 300 points d'entrée entre la province d'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et récemment encore, ce qui est tout à fait étonnant, la police d'Irlande du Nord a dit qu'elle ne serait plus là pour contrôler les frontières entre la province et la République d'Irlande, car les accords du Vendredi Saint effectivement empêchent constitutionnellement, presque on va dire, de rétablir des frontières. Il en est hors de question. Par conséquent, s'il est hors de question de rétablir des frontières, il va tout de même falloir, il y a un autre problème, c'est de protéger l'intégrité du marché unique. Imaginez c'est-à-dire que toutes les marchandises qui vont être importées du monde entier, qui vont arriver de Chine, des États-Unis, d'ailleurs, vont devoir entrer dans l'Union européenne, mais par quel point ? Donc il faut fatalement retrouver une frontière, et la frontière aujourd'hui, c'est ce que disait Boris Johnson, dans un premier temps, il a dit on va essayer de voir entre l'Irlande du Nord et la République, comme je viens de vous dire, c'est hors de question. En revanche, on peut trouver un équilibre pour une frontière qui serait située dans la mer d'Irlande, entre l'Angleterre et la province d'Irlande du Nord, et des contrôles qui seraient faits au niveau du Royaume-Uni. Ce qui reviendrait en fait à faire une autre frontière, mais qui la déplacerait dans la mer d'Irlande du Nord entre la province et l'Angleterre, et non plus entre la République d'Irlande et la province d'Irlande du Nord.
Quand je vous écoute, Patrick Martin-Genier, Michel Barnier disait le Brexit, c'est comme gravir une montagne. J'ai l'impression que vous allez nous dire que la montagne, on va peut-être réussir enfin à la gravir.
Oui, mais il faut être bien accroché, il faut des cordes et ça peut parfois dévisser.
Ça tombe bien, Michel Barnier est savoyard. Donc.
Voilà, tout à fait. Donc là, effectivement, le risque, c'est qu'on peut sortir un accord. Je remarquerai que Mme Foster du DUP, les unionistes nord-irlandais, sont assez ambiguës et disent qu'ils seraient prêts, le cas échéant, à faire un petit sacrifice. Le problème, c'est savoir est-ce que cette province d'Irlande du Nord va être sacrifiée sur l'autel du Brexit. Et je peux vous dire que parmi les unionistes, tout le monde n'est pas d'accord, mais elle serait prête à faire preuve de plus de flexibilité, ce qui veut dire qu'éventuellement, elle serait d'accord pour un accord. La question nodale aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que la province d'Irlande du Nord reste dans le régime de l'union douanière européenne ou dans le régime de l'union douanière anglaise.
Et on voit bien que ce n'est pas un problème irlandais, irlando-irlandais, si j'ose dire, Patrick Martin-Genier, que ça impacte totalement sur l'économie de notre pays aussi, à nous, la France. Est-ce qu'on peut envisager un nouveau report de la date de ce 31 octobre ? À quelles conditions ? Ce matin, dans le journal du dimanche, le président du Parlement européen dit qu'il a donné des lignes rouges à Boris Johnson et qu'un report, on ne peut l'envisager qu'à deux conditions, l'organisation de nouvelles élections donc en Grande-Bretagne ou un nouveau référendum.
Écoutez, Monsieur Sassoli, le président du Parlement européen, a rencontré récemment Boris Johnson, mais ce n'est pas à lui de décider, c'est au Conseil européen du chef d'État et de gouvernement.
Mais quand même, un report, est-ce que c'est envisageable et est-ce que c'est la bonne solution ?
Alors, le problème, je crois que ce serait quand même une bonne solution, à condition
et
qu'il décide...
Est-ce que Boris Johnson le veut ?
Ben non, en fait, Boris Johnson ne le veut pas. Il est prêt à tout pour casser le 31 octobre. Il est prêt à tout, y compris à ne pas respecter la loi de la Chambre des communes qui lui oblige à solliciter un report. Il est prêt à tout, y compris à violer l'ordre constitutionnel britannique. Ce qui voudrait dire que c'est la Cour suprême qui devrait lui donner l'ordre de solliciter un renvoi. Mais Boris Johnson, comme vous savez, est un homme intelligent. C'est-à-dire, il est en train de dire que si éventuellement on lui intimait l'ordre de solliciter un report, lundi, il va appeler les différents chefs d'État et de gouvernement, notamment Emmanuel Macron, Madame Merkel, et il est prêt à leur demander de refuser éventuellement un accord. Il a rencontré d'autres chefs de gouvernement, car jeudi prochain, pour avoir un accord de prolongation au Conseil européen, eh bien, il faudra l'unanimité des chefs d'État et de gouvernement. Par conséquent, il suffirait d'un seul chef d'État ou d'un seul chef de gouvernement pour refuser ce délai. Et donc, on doit s'attendre à tout. La situation est extrêmement confuse aujourd'hui.
Donc, on a bien compris, il faut que les 27 soient d'accord, ce qui n'est pas simple. Non. On l'a vu avec, et je termine avec ça, une toute petite dernière question sur la candidature de Sylvie Goulard à retoquer jeudi. Est-ce que ça va laisser des traces et est-ce que ça va avoir un impact sur le poids de la France justement dans ces négociations comme celle du Brexit ?
Je pense que cela va laisser des traces. Il faudrait que la France soit un peu plus humble dans cette affaire parce que naturellement, il va falloir que la France se reconstruise. Il n'est pas certain que la France puisse de nouveau avoir le même portefeuille que Mme Goulard était censée détenir. Vous savez, on devait détenir le marché intérieur, toute une série, le numérique, la défense. Mme Goulard était très compétente. Malheureusement, pour les raisons que l'on sait, elle n'a pas pu passer l'épreuve du Parlement européen. Et je pense que cela manifestement laissera des traces dans les semaines qui viennent sur l'influence de la France dans les institutions européennes.
Merci beaucoup Patrick Martin-Genier d'avoir été avec nous ce midi pour essayer de nous éclairer justement sur ce feuilleton interminable, on va le dire, du Brexit. Et j'ai bien compris que, bon, on est dans un nouvel épisode et on n'a peut-être pas encore le point final. On aura plaisir de vous accueillir de nouveau à ce micro à Europe 1. Merci beaucoup.
Merci.
Et vous le savez, on poursuit cette tranche d'information à 13h avec les carnets du monde de Sophie Larmoyer. Bonjour Sophie, et vous allez notamment nous parler des 30 ans de la chute du mur de Berlin.
Et oui, parce qu'il y a 30 ans, dès le mois d'octobre, Fabienne, il y avait déjà ces grandes manifs de contestation, notamment à Leipzig. Mais les héros anonymes de l'époque sont assez désespérés aujourd'hui de voir l'extrême droite allemande récupérer ces événements de 89 sans qu'il y ait beaucoup de réactions. Ce sera notre premier sujet dans les carnets.
Merci Sophie, à tout de suite.
Et oui, dans un instant, c'est le rappel des titres de l'info sur Europe 1.